Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti! Les planètes sont alignées cette semaine pour parler du revival de l'astrologie, de son retour dans la pop culture et de ses errances.
You're a Scorpio.
No.
No, you're totally a Gemini.
No, I'm a Cancer.
Cancer. Knew it.
Alors, est-ce une croyance de bonne femme? Ouvrez les portes de la perception pour accueillir Kémis, avec qui on va en parler. Salut.
Hello, hello.
Ça va?
Ouais, ça va, et toi?
Ça va, écoute, moi je suis allée au festival Fresh, c'est un festival de musique organisé par l'Afro, c'était à la Marbrerie près de chez moi et c'était très bien.
Ah ouais, c'est stylé,
ouais.
J'entends que du bien de ce festival.
Ouais, il y avait une rappeuse, une jeune rappeuse qui s'appelle Meryl.
Faiblesse procédée et c'est humaine, ça n'est possible par ressenti sentiment, ça tend du gros gène si humaine, les erreurs du passé seront mes sentinelles.
Qui a vraiment tout déchiré.
Ah ouais, c'est stylé.
Ouais, voilà. C'était très bien. Et toi, ça va?
Bah écoute, ça va. En ce moment, je suis un peu omnibulée par Elizabeth Warren,
ouais,
qui est une femme de 69 ans, américaine, blanche, et qui concourt à l'investiture, en tout cas qui fait sa campagne pour l'investiture démocrate en vue des présidentielles américaines de 2020.
I believe that we can make government work, not just for the rich and powerful, but make government work for the people.
On avait un petit peu parlé d'elle d'ailleurs dans l'épisode qu'on avait fait avec toi sur les femmes politiques américaines.
Carrément. Et bah plus ça va, plus je la kiffe.
Ouais. Pourquoi?
Déjà elle est plutôt à gauche au sein du parti démocrate.
C'est rare.
Ouais, voilà, déjà c'est un truc de ouf. Parce que bon, on avait déjà parlé aussi, hein, parti démocrate, ça veut pas forcément dire gauche en France. Mmh. Puis son programme, il a l'air trop stylé. Enfin, elle a parlé récemment de mettre en place une amnistie pour les frais, enfin en tout cas pour les prêts qui ont été engrangés par des étudiants en fait pour poursuivre leurs études.
Ouais, pour la dette.
Ouais. Et en sachant que c'est un truc qui vraiment qui crible les finances, qui crible les finances en fait de, bah, je pense de millions de personnes. Je pense que c'est quand même super stylé. Et puis j'aime bien en fait, elle est audacieuse et c'est bien d'avoir des gens de gauche audacieux quoi.
Mmh. On en veut plus. Si ouais. Vous êtes des gens de gauche audacieux, contactez-nous.
Je te jure.
Bon, alors pour en revenir à notre thème astral, on va parler d'astrologie cette semaine,
ouais.
De passe-temps circonscrit aux dernières pages des magazines à une mode totale sur les réseaux sociaux. On peut s'accorder pour dire que le phénomène de l'astrologie a parfaitement réussi son tournant et s'ancre pleinement dans le 21e siècle. Bon, après, soyons clairs, l'astrologie n'est pas une science, désolé. Et en tout cas, notre propos aujourd'hui n'est pas de juger de sa véracité, de décider s'il s'agit de superstition, de coïncidence ou de mysticisme. Mais on va essayer de déconstruire ce regain d'intérêt et de tenter d'expliquer le lien, en tout cas, avec les mouvements féministes et queer. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point historique qui est mis?
Ouais, bien sûr.
D'où ça vient, l'astrologie, d'où ça sort?
En fait, l'astrologie telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est une observation et une interprétation à partir de laquelle on a décidé du cycle des saisons et des moissons. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont les Babyloniens qui l'inventent au deuxième millénaire avant J.C. Donc, l'astrologie, c'est pas récent.
Non.
ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il y a plusieurs types d'astro, en fait, d'astrologie selon les espaces et les sociétés dans lesquelles
on est. Il faut décoloniser l'astrologie.
Ouais, c'est clair. Donc il y a le calendrier maya, l'astrologie chinoise, et puis pendant longtemps en fait l'observation du ciel en général a servi d'instrument de propagande dans certaines cultures. Donc c'est super intéressant.
Donc il y avait vraiment un lien avec le pouvoir et ça a été un savoir très très légitime pendant longtemps.
Bien longtemps, effectivement.
Et alors, plus près de chez nous, en France, il y a eu pendant longtemps, justement, un collège d'astrologie qui a été fermé par Colbert en 1666. Hasard ou pas, je ne sais pas. Et donc, l'astrologie a un petit peu disparu des radars pendant environ 2 siècles. Et elle a ressurgi vraiment dans les années 30, avant d'être marquée par le succès spectaculaire de la rubrique de Madame Soleil. On se souvient d'elle, d'ailleurs, c'était son vrai nom. Donc ça, c'était à partir des années 70, sur les ondes d'Europe 1.
Soleil, 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 sur Europe 1.
Et ensuite, en 2001, Elisabeth Tessier, qui est donc une ancienne mannequin et actrice devenue astrologue, a obtenu le grade de docteur en sociologie. Mm-hmm. Et elle a eu pour but de rétablir la place de l'astrologie au sein de l'université. Alors évidemment, ça a suscité un tollé. On a crié à la pseudo-science.
Bonsoir.
Bonsoir.
Magnifique, vous êtes magnifique, non ?
Merci, je me sens magnifique, c'est Jupiter.
Ah, c'est Jupiter.
Et il faut se souvenir qu'elle avait justement animé sur Antenne 2, enfin Feu Antenne 2, aujourd'hui France 2, dans les années 70, le premier horoscope télévisé quotidien. Mmh. Voilà, donc ça c'est le chercheur Daniel Kuntz qui en parle dans son article « L'astrologie a-t-elle sa place dans le monde contemporain ?» Et alors concrètement, si on a envie de mettre les mains dans le cambouis de l'astrologie, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de quoi il s'agit et comment pratiquer ?
Bien sûr. En fait, ce qui est intéressant avec l'astrologie, c'est que même si effectivement il y a un peu des critiques sur voilà, est-ce que c'est une pseudo-science ou pas, bah il y a quand même
pas qu'un peu.
Ouais, c'est clair, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a quand même une base scientifique en fait et objective assez croyante. Enfin, il y a des faits en fait scientifiques. Donc il y a en fait le zodiaque qui est défini comme la bande de ciel qui contient les trajectoires de toutes les planètes excepté Pluton. Donc, il y a aussi un débat sur Pluton, mais bref, on verra ça plus tard. Donc, il rencontre 12 des 88 constellations qui regroupent l'ensemble des étoiles de première grandeur de la sphère céleste. Et donc, les astrologues et les astronomes ont depuis l'Antiquité divisé le zodiaque en 12 signes de longueur égale, nommés d'après les constellations qu'ils recouvraient à cette époque. Donc, en fait, comme le mouvement des planètes affecte la Terre, et c'est vrai, on voit bien que la Lune affecte, bah, voilà, les marées, etc. Il y a un lien qui a été fait par les astrologues sur le fait que le mouvement de la Terre, en fait, affecterait aussi donc les personnes, l'avenir, les personnalités, etc.
Et donc, à partir de la position des planètes au moment de son lieu et de son heure de naissance, on peut établir ce qu'on appelle le birth chart en anglais, c'est-à-dire le thème astral, qui est aujourd'hui souvent mélangé à la fois de la psychologie ou de la prédiction d'avenir. Donc, pour le résumer de manière très, très succincte, le signe principal, c'est le soleil. En général, c'est les traits principaux de votre personnalité.
I am who I am. Je suis qui je suis.
Ensuite, l'ascendant, c'est la façon dont on est perçu. Généralement, l'ascendant va prendre de plus en plus de place avec l'âge.
Et je vous souhaite un bon karma. Thank you very much.
Voilà. Il y a notre lune aussi, le positionnement de notre lune. Donc ça a un effet sur la sensibilité, l'instinct, l'intuition.
C'est une énergie foudroyante, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai juste été dans ma dynamique. Et les esprits sont vraiment là parce que le résultat, c'est ce qui compte.
Voilà, il y a tout un tas d'autres choses sur lesquelles on n'a pas forcément le temps de s'attarder, mais... vous pouvez donc faire votre thème astral et vous en rendrez compte. Mmh. Et alors récemment, on a découvert, malheur, qu'il y avait un 13e signe, le serpentaire, donc, qui serait du 29 novembre au 17 décembre et qui décalerait en fait pas mal des signes qui viennent après.
Moi je suis contre moi. Moi je rejette ce serpentaire, je suis dans le déni.
Moi ça ne change rien à mon signe perso, donc ouais. Ça va. Mais il y a une expression aussi qu'on emploie très très souvent ces temps-ci. On parle de Mercure rétrograde. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
En fait, la rétrograde de Mercure, c'est quoi ? C'est un moment qui arrive 3 ou 4 fois par an dans l'année où on a l'impression que Mercure recule, en fait. Et Mercure, comme dans la mythologie romaine, c'est le dieu de la communication, on attribue à ce moment-là plein de calamités. Typiquement, on a attribué, par exemple, l'élection américaine de 2000 et tous ces couacs. Et
ah, c'était donc ça.
Ouais, c'était un peu une grosse cata, en fait. C'était pas Bush, en fait. C'était Mercure.
Can I be honest?
Of course.
You've been weird ever since Mercury has been in retrograde.
So have you.
Voilà, on lui attribue aussi l'éruption du volcan Ejafalajajokull.
Très belle prononciation.
J'ai vu ça un petit peu. Et du coup, on considère aussi que pendant cette période, il va avoir aussi des problèmes de communication, des problèmes avec l'informatique. Si vous avez des trains, vous pouvez les louper. Et la prochaine, en fait, c'est du 7 juillet au 1er août. Donc, si vous avez des avions comme moi, essayez de ne pas les louper. Très bien.
Moi, la dernière fois qu'on était en Mercure rétrograde, j'ai oublié de prendre mon billet de retour en avion.
C'est pas vrai.
Oui. Donc, voilà, j'étais à Venise, donc fail.
Ne faites pas comme Clem.
C'est ça. Et alors, pour parler un petit peu du lien qui existe aujourd'hui entre féminisme et astrologie, puisqu'il est réel, on peut se rappeler que donc, ce regain d'intérêt pour l'astrologie s'est inscrit vraiment dans un courant à la fois spirituel et mystique du féminisme, surtout en Californie, on peut le dire un peu New Age. Et c'est parfois inspiré de l'Inde, donc dans les années 60-70, ou bien de courants païens carrément plus anciens, avec la pratique notamment de la sorcellerie ou aussi de la Wicca. D'ailleurs, à ce sujet, la sorcière et activiste Starhawk, donc qui est la sorcière la plus connue au monde, avait organisé quelque chose qui s'est appelé la Spiral Dance dans les années 70, donc une grande réunion dansée à San Francisco. Et là, elle vient de publier un nouvel essai en français. Et pour faire un tout petit topo sur elle, puisque je l'ai interviewée le mois dernier dans le magazine Cosette, pour faire un peu mon auto-promo, c'est vraiment quelqu'un qui mêle la sorcellerie et l'activisme politique, en fait. Mm-hmm. Donc, et qui essaie de mobiliser les personnes minorisées à travers la spiritualité. Donc, je vous recommande ses écrits. C'est assez intéressant, enfin en tout cas pour les Européens, je pense que c'est assez différent de ce qu'on connaît.
C'est clair.
Et donc voilà, pour en revenir au lien entre féminisme et astrologie, voilà, il y a eu dans les années 60-70 tout un courant qui s'est intéressé à la fois aux chakras, aux cristaux, au tarot, au chamanisme, à l'occultisme. Et donc, sans délégitimer ces centres d'intérêt, il s'agit depuis cette période-là de travailler en tout cas une sensibilité, un niveau de conscience et d'éveil au monde, au sens, à ses ancêtres et aux vibrations du monde. Et c'est vrai que c'est souvent, l'astrologie en tout cas est souvent délégitimée parce qu'elle est perçue comme féminine, ça fait partie des idées reçues. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi les hommes hétéros détestent autant l'astrologie ?
Je pense que en fait, c'est comme à chaque fois, on est dans un système où tout ce qui est considéré comme féminin, ce que tu le disais tout à l'heure, est dénigré à cause du patriarcat et la misogynie, tout simplement. Et puis, il faut aussi le dire et le souligner, ça s'inscrit totalement contre le culte de la rationalité, de la science qui est occidentale, masculine, et qui s'est imposée en fait en excluant les savoirs dits féminins. Donc en gros, c'est super intéressant. C'est voilà, c'est la sorcellerie, c'est l'astrologie, c'est les religions anciennes africaines, tout ce qui n'est pas produit en fait par une science dite rationnelle occidentale blanche et masculine, on rejette quoi. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend toujours les mêmes choses concernant l'astrologie. On retient ce qui nous arrange, que les femmes sont crédules et liées à leurs émotions, que c'est du charlatanisme, des sornettes, tout ça. Faut demander même, je pense qu'il y a des gens, même nos collègues qui vont dire la même chose. Et puis, après, ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie, ça permet à la fois l'introspection, l'accès aux émotions, l'ouverture aux autres. Et c'est pas du tout des traits qui sont, inculqués dans la société dans laquelle on est, aux hommes, en fait, tout simplement.
Voilà,
je vais être un peu misandre, mais ils connaissent pas souvent. Donc, du coup, ça permet aussi voilà, des conversations centrées sur ce qu'on ressent, sur notre perception de nous-mêmes. Ce genre de conversation qui existe quand même très peu dans des espaces masculins, quoi.
Oui, et d'ailleurs, il y a une autre explication à l'intérêt, surtout féminin, pour l'astrologie. Ça, c'est le site Mashable qui en parle. Donc, selon eux, les femmes et par extension les personnes dominées ou minorisées auraient tendance à faire davantage confiance à une force ou à une intervention extérieure pour guider leur vie. Ce qui, en fait, historiquement, a été plutôt vrai quand on est souvent privé de capacité d'agir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libre arbitre chez les personnes qui croient à l'astrologie. Donc, ce n'est pas du tout une question de bêtise ou de crédulité. Mais il faut ajouter qu'à cette mauvaise image, les magazines féminins ont vraiment contribué à délégitimer les horoscopes. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu une petite étude sur les horoscopes dans différents magazines féminins. Et on voyait bien que dans les magazines pour femmes riches, on leur conseillait de voyager et de dépenser leur argent. Et dans les magazines pour femmes plus populaires, on leur conseillait de ne pas voyager et de ne pas dépenser leur argent. Donc c'était un peu du foutage de gueule.
Ouais.
Voilà. Et alors aujourd'hui, il y a une vraie rencontre entre l'astrologie et les internets, puisque en accompagnant la montée des sous-cultures identitaires, l'astrologie est vraiment en train d'être déstigmatisée en ce moment, puisqu'elle incarne aussi la forme parfaite pour l'âge d'or d'internet qu'on est en train de vivre. Donc elle s'appuie sur de nouveaux supports, sur des comptes Instagram avec beaucoup de mèmes, sur des applis super high-tech. Et d'ailleurs, pour preuve, l'horoscope du site de New York Magazine The Cut reçoit une augmentation de plus de 150% de visiteurs. Enfin, en tout cas, c'était le cas entre 2017 et 2016. Donc, il y a vraiment une explosion du lectorat.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, en tout cas, dans les espaces qui existent en Occident, l'astrologie s'est vraiment diversifiée. Elle est devenue plus inclusive.
Oui, enfin.
Il y a tout un mouvement d'astrologie queer, surtout quand la religion qui s'accommodait très bien de l'astrologie, exclut quand même pas mal beaucoup de personnes. Donc à San Francisco, il y a la Queer Astrology Conference.
Invitez-nous.
qui a l'air vraiment super intéressante. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut rappeler, c'est que l'astrologie, en tout cas l'astrologie occidentale, les planètes et les signes sont vraiment dans les... enfermés dans les codes de genre et dans des rôles genrés. Et bon, forcément, c'est très sexiste. Donc, on a une énergie masculine qui serait active, l'énergie féminine qui serait passive. La lune, ce serait le côté un peu féminin, alors que le soleil est masculin. Enfin, voilà. Donc, l'analyse des placements de Mars et de Vénus qui donne juste envie de péter un câble. C'est intéressant, en fait.
Et alors aujourd'hui, il y a vraiment une rencontre, enfin y compris une rencontre marketing, entre la génération dite des millennials et l'astrologie. Et on peut se demander pourquoi. Enfin, il y a pas mal d'hypothèses qui sont émises pour expliquer cet engouement. Est-ce que ce serait parce que le monde fait peur et donc ça occasionnerait un repli identitaire sur le mysticisme sur un mysticisme un peu dévoyé? Pourquoi, à l'heure où il suffit d'aller sur Google pour avoir réponse à tout, on se tournerait vers l'astrologie? Peut-être parce que Google ne sait pas de quoi demain sera fait, justement. Peut-être aussi parce qu'il y a un recul du religieux dans les sociétés contemporaines et qu'on veut tout de même croire en quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les dieux de l'astrologie croient au business et qu'ils sont parfois arrogants. Et qu'on essaie souvent de nous refourguer tout un tas de produits dérivés liés à l'astrologie. Donc voilà, on n'est pas obligé non plus de tomber dans le panneau. Je pense notamment à ces rouges à lèvres à appliquer selon le signe du mois.
Et autres
arnaques.
Le capitalisme ruine tout.
Ouais, c'est ça. Le capitalisme n'est jamais bien loin. Et pour parler un petit peu de notre expérience personnelle, toi, quel est ton rapport au cosmos, Kémis?
Alors j'avoue que... l'astrologie, déjà, il faut le dire, c'était le seul truc, enfin ça faisait partie des deux seuls trucs qui me faisaient acheter les journaux féminins, les magazines féminins, quand j'étais ado. Donc,
y avait... Fidélisation.
Ouais, voilà, donc c'était... déjà, j'en achetais pas beaucoup, mais quand j'en achetais, c'était vraiment le truc que je lisais, je crois, le premier ou le deuxième... Enfin, la première ou deuxième catégorie que je lisais, en tout cas. Et en fait, c'est parce que aussi, les magazines féminins, ils s'adressaient pas vraiment à moi. Donc, c'était bourré d'images de filles qui me ressemblaient pas, d'objets que j'aurais jamais pu acheter. Alors que voilà, l'astrologie, c'était un peu un truc social, quoi. C'est la partie du magazine où tu peux discuter avec tes copines d'un truc, quoi. Tu t'es calcine, machin.
Ouais, c'est un rituel démocratique.
C'est ça, en fait. Ton crush et de calcine, c'est très social, en fait, l'astrologie. Donc moi, je suis taureau, lune en taureau, donc double taureau.
Ouh là là.
Donc j'aime beaucoup dormir. Best part of waking up is going back to sleep. Et ascendant balance. Okay. Et toi, du coup, Clem?
Donc, tu es casanière et tu aimes manger. Ah, ça tombe bien, c'est la saison du taureau en ce moment, donc rise and shine.
Season taureau!
Ouais. Alors moi, contrairement à toi, je suis signe de feu, donc sagittaire.
Ouais.
Évidemment, j'ai envie de croire que c'est pas un hasard, puisque mon nom de famille c'est Gallo et que le signe du sagittaire c'est un centaure. Voilà, je suis sagittaire comme notre productrice Laura, que je salue, ainsi que le joueur de foot Mbappé. J'aime à le rappeler. Mais pour l'instant, je marche un peu à reculons face à mon ascendant vierge qui va bientôt prendre le dessus. Et ça me saoule. Enfin, en gros, je vais devenir comme ma mère. Bonjour, maman. Et alors, moi, il m'arrive de me faire lire le tarot à l'occasion.
Oh, trop bien.
Et la dernière fois que je l'ai fait avec une amie, on était extrêmement sceptique et en y allant, on est allé un peu en rigolant et on est ressorti terrorisé.
Mais c'est trop bien, moi je veux trop y aller, quoi.
Ouais, ouais. Donc, soit on a retenu que ce qu'on voulait, soit la prédiction était effectivement très juste. En tout cas, voilà, allez-y, testez-le. Mais pour moi, effectivement, enfin, comme pour toi, c'est une manière, l'astrologie, de créer du lien social et souvent, pendant les fêtes de Noël, en famille, on se lit mutuellement nos horoscopes pour l'année.
Mmh.
Et puis évidemment, entre potes, la blague c'est toujours combien de temps il faut attendre avant de demander à son crush son heure et sa date de naissance. Et moi je me suis rendu compte que, à la fois dans mes rapports amicaux ou amoureux, les gens que je fréquentais étaient souvent des mêmes signes.
Ouais.
Mais bon, après, c'est pas une raison pour se dédouaner et mettre non plus tous ces échecs amoureux sur le compte des planètes.
Je vois que t'as écrit coucou les soirs.
My ex was such a sweetheart, but he had to go.
Je ne ferai pas de commentaires.
J'allais dire, je relate so hard.
Et alors maintenant, on va écouter le témoignage de Eugénie, qui est la tenancière du compte Instagram Astrologuine, voilà, qui va nous parler d'astrologie et de mouvement queer.
Astrologuine, du coup, c'est un compte qui a l'ambition de produire des mèmes francophones astrologiques en gardant un twist pop et arty. Du coup, ouais, moi j'ai appris ça par ma grand-mère, du coup, que j'ai toujours vu faire et qui m'a appris depuis petite. J'ai toujours baigné là-dedans et dans la compréhension des signes et comment ça s'articule avec la personnalité. Et du coup, c'est ce qui m'a intéressé de reprendre le flambeau quelque part, parce qu'il y a toute cette transmission familiale derrière où, même si je suis pas sûre que ma grand-mère comprenne tous les enjeux du queer, il y a ce truc de transmission des savoirs et de prendre les savoirs et de, après moi, les utiliser avec mon intuition aussi et surtout avec mon identité qui est queer. Parce que l'astrologie, c'est quand même quelque chose, c'est un sujet qui est encore assez binaire, très genré, assez hétéronormé aussi. Donc pour essayer de rendre ça queer, enfin moi, personnellement, sur Astrologuine, j'essaye d'utiliser des template iconique de films ou de séries de la culture queer et surtout d'employer l'écriture la plus inclusive possible. Et quand je fais des cartes astrales, donc la carte astrale c'est la lecture des positions des planètes dans les différents signes par rapport à une personne, j'essaye de bien inclure toutes les formes de relations et pas que des relations hétéro et pas que des relations monogames. Donc le lien avec la communauté LGBT et queer, il est là. C'est que en réalité, c'est un sujet qu'on peut s'approprier dans cette transmission des savoirs. C'est un espace, c'est des modes de pensée qui sont en dehors du monde dominant. Donc on peut, où il y a vraiment un espace pour s'exprimer, un espace pour aussi s'approprier ces savoirs. Puis en ce moment, il y a ce boom aussi de l'astrologie en général et surtout de l'astrologie queer, où c'est quelque chose qui est... Moi, je suis ravie, hein, c'est hyper positif, c'est quelque chose de vraiment très empouvoirant, enfin, c'est quelque chose qui donne beaucoup de pouvoir. Et moi, je me l'explique, parce qu'il n'y a pas de conditions normatives dans les planètes, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, et c'est un espace vraiment... C'est un espace d'expression où il n'y a pas d'oppression et où vraiment il y a toutes ces possibilités de s'exprimer et d'avoir ses propres interprétations en dehors des cadres à la fois hétéronormatifs et patriarcales et de construire nous nos propres savoirs et d'avoir cette base où il y a cette enfin ce que je veux dire c'est que c'est un espace où le personnel rencontre quelque chose de spirituel et où ça rencontre aussi quelque chose qui est politique dans la manière de s'approprier ça.
Et alors, est-ce qu'on a des petits conseils en matière d'astro à donner ? Moi, ce que je peux dire, c'est que je recommande avec force et véhémence de suivre Shani Nicolas, qui est une astrologue et activiste LGBT et qui œuvre aussi pour les minorités raciales aux États-Unis.
The horoscopes are meant to be healing, are used as tools for healing.
Yeah.
And if I can do that, then I'm happy. And I don't really care about being... I'm not trying to get your life right. That's not my job. I'm just trying to use the tool that I've been given, which is astrology. I don't know why I was given that tool, but it's the thing I've got to use. So to use it in the best way that I can possibly use it.
En fait, elle fait vraiment de l'astrologie une force positive de changement politique, de self-care et de care des autres aussi. Vraiment, je recommande la lecture de ces horoscopes à tout le monde, même si vous n'y croyez pas, parce que c'est vraiment des textes pleins d'espoir, inspirants et poétiques. Et si l'astrologie n'est pas une science, là, c'est au moins un art avec elle, je trouve.
Oh là là, ça me donne trop envie de lire, ça a l'air trop bien. Du coup, moi, je recommande Mika Woods, qui est une astrologue de feu, qui est une femme noire américaine et qui a une tribune sur Bustle. Mm-hmm. Elle fait aussi beaucoup des tweets, en fait, et je trouve ça trop cool.
I started out about 6 or 7 years ago at a crossroads. You know, love life wasn't happy, career wasn't happy, and that's kind of like how I stumbled onto astrology. And once I saw like it could be used as a tool for empowerment, I was like hooked.
Je crois que parmi elle et notre productrice bien-aimée, elles m'ont encore plus donné envie de suivre tout ce qui concerne l'astrologie.
Bon, bah, tant mieux. Et alors, pour avoir un peu la classe sur Instagram, on peut suivre les deux comptes Not All Geminis et Jake's Astrology, qui font quand même les meilleurs mèmes, on peut le dire. On peut aussi s'abonner à l'appli CoStar, qui vous synchronise à la fois avec la NASA et avec vos potes.
Mais par contre, c'est juste sur iPhone. Moi, j'attends désespérément qu'elle arrive sur Android. Toujours pas là.
Et parmi les podcasts, on peut en apprendre un peu plus sur l'astrologie, avec, en tout cas avec le podcast en anglais What's Your Sign, qui est très complet sur ces questions-là. Le moment.
Pop.
Culture.
Pop.
Culture. Alors dans la culture, déjà, pas la peine de regarder le film de David Fincher, Zodiac, qui n'a rien à voir avec la choucroute. C'est un film sur un tueur en série.
Super.
Voilà.
C'est un gémeau ou pas?
Ah, je sais pas. Peut-être, peut-être. En tout cas, on peut écouter la chanson de Katy Perry, It Takes Two, qui commence par la phrase « Is Mercury in retrograde ?» On l'écoute.
« Is Mercury in retrograde ?» Or is that the excuse that I've always made?
Il faut savoir que parmi la frange mystico-millionnaire d'Hollywood, certaines personnes inspirées comme George Clooney, Sarah Jessica Parker, Cameron Diaz ou encore Lady Gaga n'hésitent pas à consulter des médiums pour leur carrière ou à consulter les étoiles avant de partir en tournée. Donc voilà, vous n'êtes pas seul hein, si c'est ce que vous faites.
Ma grand-mère raconte toujours l'anecdote de Mitterrand qui avait une voyante.
Ah, okay.
Je ne sais pas si c'est une fake news ou pas, mais en tout cas, je rajoute.
Ceci explique sa réélection. Et alors, est-ce qu'il y a peut-être des playlists qu'on peut regarder ?
Ouais, bien sûr. T'as Bustle, donc un site américain qui a compilé une liste de films à regarder sur Netflix selon votre signe. Donc Jane Eyre, si vous êtes Scorpion.
Un film bien filbal.
J'allais dire, c'est le truc le plus déprimant du monde, mais bref. Et puis il y a aussi BuzzFeed et Refinery 29 qui sont amusés à nommer le signe de personnages de fiction. Donc Harry Potter est un lion, ça étonne personne. Bob l'éponge est cancer.
Ok.
Je sais pas ce qu'il a fait dire ça, mais bon. Carrie Bradshaw de Sex and the City est gémeaux.
Normal.
Et Daenerys de Game of Thrones et Bélier. Alors ça, ouais. Je sais pas absolument pas ce que ça veut dire comme je regarde pas, mais.
Voilà. Ouais, bah si, je te confirme. Et sinon, il y a aussi Spotify, donc l'application de musique, qui vous concocte des playlists sur mesure selon votre signe. Donc,
ok, je vais écouter ça.
Ouais, c'est pas mal.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Et alors, cette semaine, qu'est-ce que tu as dans ton casque, Kémis?
Alors, j'ai deux choses. La première, c'est la sortie de l'album d'Emily King, qui est une chanteuse de R&B, chill R&B, on va dire, américaine. Donc, elle a sorti de Scenery, qui est vraiment un bijou. Donc, c'est un peu, voilà, comme je disais, de la pop douce, du R&B, tu sais, il y a un tout petit peu de folk dans certains morceaux. Et donc, du coup, il y a un son qui me booste à mort, c'est Can't Hold Me. Donc, c'est un morceau qui est une ode à la confiance en soi, au fait de ne pas se brider, de se faire confiance. Je pense que voilà, c'est vraiment typiquement le morceau de printemps / été.
On l'écoute.
In the night, in the middle of the day, I call you over, but you always hesitate.
Et puis sinon, je vais aussi bientôt voir le vernissage de Anya Diviani. Qui est une peintre que j'aime beaucoup. En fait, elle peint des femmes noires dans des mondes afro-futuristes. Elle a une perspective vraiment afro-féministe en fait, de son travail. Et donc, elle va exposer bientôt à Paris.
À Paris, d'accord. Bah, on regardera ça, merci.
Et toi, Clem?
Alors moi, c'est plutôt une lecture. C'est le nouveau livre très attendu de Rebecca Solnit, qui s'appelle « La mère de toutes les questions ». Rebecca Solnit, c'est un petit peu la Mona Chollet américaine, je trouve. C'est vraiment une des voix les plus importantes aux États-Unis, à mon sens. On la connaît en France parce qu'elle a déjà sorti un essai l'année dernière sur le mansplaining, qui s'appelle « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». Très important. À lire. Et là, c'est une nouvelle collection d'essais qui parle de la maternité, du silence des femmes et de pas mal d'autres sujets. Et elle écrit cette phrase très belle. Ce livre est une traversée du carnage. Voilà. Je vous invite à le lire. C'est aux éditions de l'Olivier, dans une traduction de Céline Leroy.
Allô, allô.
Allô, allô.
Monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute. Alors, cette semaine, c'est Solène qui nous écrit avec la question suivante. Comment relativiser les monstruosités du sexisme? J'ai tendance à tout prendre à cœur. Alors, Kémis, comment faire pour relativiser? Est-ce que toi, tu y arrives déjà?
Est-ce que moi, j'y arrive? Ça dépend. Alors déjà, salut Solène, merci pour ta question. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il faut déjà rappeler le fait que tu prennes tout à cœur, c'est quand même quelque chose qui est super positif, selon moi. T'es pas apathique, quoi. Tu crois en quelque chose, tu crois en l'égalité, tu crois en la justice, tu crois en vraiment des belles valeurs, à mon sens. Et c'est pour ça que tu réagis. Donc ça, c'est bien. C'est des bons réflexes. Et vraiment, le fait de... Je pense que le pire, c'est vraiment d'être indifférent, en fait, finalement, ou d'être cynique, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut mettre des stratégies en place pour faire des pauses, comme on en a discuté plusieurs fois dans le podcast, parce que s'énerver sur tout, s'énerver sur un monde qui est horrible, oui, c'est éreintant, c'est normal, quoi. Et donc, du coup, ce qu'il faut ramener dans ta vie, ce qui est plus difficile, mais je pense que Clem, toi et moi, on est un peu d'accord sur cette question, ce qui est difficile, c'est d'être tout le temps énervé. Donc, du coup, il faut ramener des choses qui te procurent de la joie. Donc, il faut aussi te rappeler que t'es un être humain, et que parfois, il faut que tu économises tes forces, que tu ne peux pas combattre tout le temps, qu'il faut que tu aies aussi des moments de joie, de pause. Marie Kondo, si tu m'entends. Voilà, c'est pour toi. Et puis aussi, je redis, on en avait reparlé dans le podcast sur le self-care qu'on avait fait à l'occasion du 8 mars. Rapproche-toi d'une association, de groupes militants ou d'autres féministes, parce que parler de la fatigue, je pense que ça te permet aussi de la partager, un peu de la diffuser, quoi. Et puis, il y a toujours un moment où t'as envie de te rebooster avec tes copines, quoi, ou tes potes.
Et oui, sharing is caring, on le rappelle. Merci pour ces conseils, Kémis.
Merci à toi, Clem.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Salut, merci. Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes, présentée par Clémentine Gallo.
Et Kémis.
Réalisée par Aurore Meilleur-Mailleux. À la prise de son, Adrien Beccaria. Montage et mixage, Laurie Galigani. Coordination, Laura Cuissard, avec l'aide de Cassandra de Carvalho.